OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, nous sommes au rendu au livre de Sophonie. Et comme on le fait à chaque fois, on commence toujours la première partie de l'étude d'un livre. On regarde toujours les mêmes choses et la deuxième partie est un petit peu différente. La première partie comprend toujours une étude de l'arrière-plan du livre, son but principal. Alors, on présente aussi le plan. Il y a deux plans que je vous présente dans cette leçon-là. Il y a un plan succinct, un plan général plus développé. Les thèmes majeurs qu'on trouve dans le livre de Sophonie, quelques versets clés, des leçons pour le peuple de Dieu d'alors et d'aujourd'hui, et aussi la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre de Sophonie. Alors, le premier point qu'on regarde, c'est l'arrière-plan du livre. Le décalogue, donc les 10 commandements, donnés au Sinaï, commence ainsi. Exode chapitre 20, versets 2 à 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dieu indique d'emblée la raison profonde de ses premiers commandements. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Sa jalousie explique la nature de ses relations avec son peuple. Il ne s'agit évidemment pas de la jalousie que l'on constate si souvent chez les êtres humains. Celle-ci procède généralement de l'insécurité, de la peur ou du ressentiment. Elle exprime le doute quant à la fidélité d'autrui. Dieu n'a nul besoin d'affirmer sa personne ou sa valeur. Il est le seul vrai Dieu. Il a créé toutes choses. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il peut revendiquer à bon droit le dévouement total de tous ses sujets. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Alors, on trouve tout ça dans Ésaïe, chapitre 45 et chapitre 46. Sophonie est le livre de la jalousie de Dieu. Son exigence d'une loyauté exclusive. Cette jalousie s'exprime dans un jugement juste. Pourtant, même lorsqu'il juge, Dieu manifeste un amour sublime envers son peuple élu et fera tout pour occuper une place exclusive dans le cœur des siens. L'auteur du livre de Sophonie, si Sophonie est le seul prophète à faire remonter sa généalogie sur plusieurs générations, il doit y avoir une bonne raison. Il faut croire que son ancêtre Ézéchias n'est autre que le roi du même nom, ce roi fidèle qui régna sur Juda entre 715 et 686 avant Jésus-Christ. Sophonie semble donc être le seul prophète de l'Ancien Testament dans les veines duquel coule du sang royal. Ézéchias était son arrière-grand-père. Sophonie a donc certainement un libre accès à la cour royale. Ce privilège lui permet de constater par lui-même l'état de corruption des chefs religieux et politiques de Juda. Le nom Sophonie signifie « caché » ou « protégé » par l'Éternel. Le prophète a peut-être cette signification d'esprit quand il écrit « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » La date et le contexte historique du livre. D'après les premiers mots du livre, Sophonie exerce son ministère sous le règne du bon roi Josias. Comme la destruction de Ninive se produit en 612, Sophonie doit prophétiser entre 640 et 612 avant Jésus-Christ. Le jugement imminent que le prophète annonce est celui de l'invasion babylonienne, 605 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël, qui sont les dix tribus du Nord, a été envahi un siècle plus tôt et ses habitants amenés captifs en Assyrie, en 623 avant Jésus-Christ. Donc, les dix tribus du Nord, on se souvient, ont été avant le Juda envahi. Alors, le petit royaume de Juda, qui comprenait Juda et Benjamin, les deux tribus du Sud, subsiste avec Jérusalem pour capitale, mais ses jours sont comptés. Une rébellion continuelle contre l'Éternel, à quoi s'ajoute une idolâtrie et une immoralité flagrante, aboutissent à son rejet et à la captivité babylonienne. Alors, ceux qui ont les notes, j'ai mis à la page 4, vous avez un tableau qui vous montre un peu qui était au pouvoir, à quelle époque, quel roi était là et quel prophète était là. Ça vous donne une idée. Très important d'étudier ces petites choses-là quand vous étudiez le livre et vous voulez comprendre le contexte. Alors, né sous le règne du mauvais roi Manassé, Sophonie est forcément bien au courant de la corruption dans laquelle Juda est si facilement et si souvent tombé. Lorsqu'il débute son ministère, un nouveau roi occupe le trône de Juda. On pense généralement que Sophonie exerce son office prophétique dans les premières années du roi Josias, avant que celui-ci n'entreprenne sa grande réforme religieuse. Il serait donc un contemporain de Nahum et de Jérémie. Il est très probable qu'il incite avec Jérémie le roi Josias a initié la réforme religieuse du pays. Josias accède au trône de Juda à l'âge de 8 ans. C'est jeune. À 16 ans, il se tourne vers l'Éternel et à 20 ans, il entreprend la réforme de la religion de Juda. Il renverse de nombreuses idoles, les réduit en poussière, brûle les ossements des faux prêtres sur leurs autels qu'il démolit ensuite. La découverte du livre de la loi dans le temple produit un impact profond sur le roi qui prend aussitôt l'initiative d'une deuxième réforme. Le règne d'un roi pieux, Josias, et les ministères de prophètes fidèles comme Sophonie, Jérémie et Habacuc pendant les dernières années de Juda, témoigne de la grande compassion de Dieu qui délivre au peuple de nombreux avertissements concernant sa situation critique et lui donne de multiples occasions de revenir à lui. On a appelé Sophonie, Jérémie et Habacuc les prophètes de la 11e heure du royaume de Juda. Mais la repentance du peuple sous le règne de Josias, est éphémère. En peu de temps, la nation replonge dans l'idolâtrie et l'immoralité. Deuxième point qu'on regarde, le but principal du livre de Sophonie. Manassé avait régné pendant 55 ans sur Juda, de 696 à 642. Il avait pratiqué une politique délibérément pro-assyrienne qui impliquait, sur le plan religieux, l'adoption des pratiques des Assyriens, le culte de Baal et de l'armée des cieux, la divination, la magie, la prostitution sacrée et même des sacrifices humains. Plus d'un demi-siècle d'apostasie avait laissé de profondes traces dans le peuple. Beaucoup de gens s'étaient détournés de l'Éternel, avaient adopté les coutumes étrangères ou étaient devenus sceptiques. Ceux qui restaient fidèles à l'Éternel étaient persécutés et devaient se cacher. Les chefs religieux et politiques vivaient dans le luxe et la corruption morale. Ils opprimaient les pauvres, violaient la loi et profanaient les choses saintes. Cette situation, décrite dans 2 Rois, chapitre 21 à 23, et dans 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 11, et dans les premiers discours de Jérémie, était encore telle du temps de Sophonie. En effet, Amon, le fils de Manassé, n'avait régné que 2 ans et suivit en tout point la voie de son père. Lorsqu'il fut assassiné, Josias n'avait que 8 ans. Durant sa minorité, le peuple continua à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est pour les avertir et les amener à la repentance que Dieu leur envoya des prophètes comme Sophonie et Jérémie. Là, vous avez à la page 6, le point 3, le plan succinct. Si jamais vous voulez prendre un livre comme Sophonie et l'étudier, c'est vraiment, ça aide beaucoup à voir la structure du livre. Vous avez un plan succinct, donc c'est un plan vraiment détaillé, pas détaillé, mais je veux dire vraiment résumé. Et sur l'autre page, vous avez le plan détaillé du livre de Sophonie. C'est vraiment un livre intéressant à étudier. Mais tout livre que vous voulez étudier, si vous vous servez des notes que vous avez eues depuis le début, ça aide beaucoup à comprendre un livre. Sinon, on lit ça, puis on comprend pas grand-chose, puis on en retire peu si on ne le fait pas. La quatrième point qu'on va regarder, c'est les thèmes majeurs du livre de Sophonie. Il y a premièrement le thème de « le jour de l'Éternel ». On parle beaucoup « le jour de l'Éternel » dans le livre. On a aussi le thème que Dieu va juger les nations et va les détruire. Autre thème, c'est que Dieu appelle son peuple à la repentance. Et un autre thème, Dieu restaurera un reste de son peuple et gardera ses promesses. Quelques versets clés du livre de Sophonie. Sophonie 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Sophonie 2, 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie, chapitre 3, verset 8. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Sophonie, chapitre 3, verset 14. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. » Pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Sixième point, les leçons pour le peuple de Dieu. Dieu garda ses promesses et restaura un reste de son peuple. De ce reste, Dieu envoya son Fils unique pour racheter son peuple pour l'éternité, les sauvant ainsi de la destruction complète du grand jour de l'Éternel. Un jour, Dieu jugera les nations et détruira ceux qui vivent dans le péché et continuent dans leur méchanceté. Dieu nous défie de nous éloigner de nos voies de péché, de nous repentir et de chercher la rédemption en Jésus-Christ. Septième point, la place et la présence de Jésus-Christ dans le livre. Donc, on parle du jour de l'Éternel. En tout juste 3 chapitres, le prophète utilisa 20 fois l'expression « le jour de l'Éternel ». La prophétie de Sophonie concernant le jour de où l'Éternel visitera le pays en jugement s'accomplit partiellement quand l'armée babylonienne, conduite par Nebuchadnezzar, envahit le territoire et déporte ses habitants. Mais l'accomplissement complet est encore à venir. Ça, c'est quelque chose qui est très conscient, très courant dans les Écritures, des prophéties qui s'échelonnent, premier accomplissement, deuxième accomplissement, des fois, il y en a jusqu'à trois. C'est important de voir que des fois, qu'est-ce qu'il dit s'accomplit historiquement par... Ils ont été envahis par Babylone, par Nabuchodonosor. Mais il parle du jour de l'Éternel qui va beaucoup plus loin que juste la question. Alors, les auteurs du Nouveau Testament se servent de cette expression dans deux sens. La rattachant d'une part à la première venue du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, Pierre l'utilise à propos du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Paul parle aussi du jour du Seigneur comme celui du retour du Seigneur. Il est écrit aux Thessaloniciens, « Vous savez... bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Pour Sophonie, le jour de l'Éternel désigne un entrelacement complexe d'événements capitaux. Il n'est pas possible de dire de façon dogmatique quelle prédiction s'applique d'abord à la mesure babylonienne et à l'exil qui en résulte, puis au retour des captifs sous la conduite de Zorobabel et d'Esdras, ensuite à la venue du Messie et à sa mission de sauveur, enfin à son retour dans la gloire et le jugement. Comme vous voyez, ça s'en va sur plusieurs siècles. On retrouve ce même enchevêtrement 500 ans plus tard dans l'enseignement du Seigneur Jésus. En évoquant les événements cruciaux qui vont se produire, il associe dans le même souffle l'invasion de Jérusalem par les Romains, les conflits internationaux, la prédication de l'Évangile dans le monde entier et son retour avec puissance et grande gloire dans Matthieu 24. De nombreuses prophéties relatives au jour de l'Éternel se sont déjà réalisées, mais l'apogée de ce jour est encore à venir. À son propos, Jésus lance un avertissement solennel quand il interroge « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » De son côté, Pierre fait remarquer, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu. » L'auteur de la lettre aux Hébreux exhorte à attendre le Seigneur. Paul résume l'importance de mener une vie de fidélité et d'obéissance quand il écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon sa sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. très important ici, le titre 2, remarquez ça dans votre esprit, c'est bon à garder ça dans l'esprit. C'est un verset que, dans beaucoup de nouvelles versions, on a voulu dissocier notre grand Dieu et sauveur. Ici, c'est vraiment clair pour la divinité de Jésus-Christ, c'est un verset clé pour utiliser, pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. C'est bien de notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. Titre 2, verset 11 à 13, c'est un verset clé. Et dans certaines versions, on a voulu dissocier Dieu du sauveur. On a enlevé comme le « et ». En tout cas, c'est des choses que vous pouvez vérifier, là, mais c'est important. Deuxième chose qu'on peut regarder là-dedans aussi, c'est le bon vêtement. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés au jour du sacrifice de l'Éternel. Je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Le sacrifice mentionné dans ce passage est la nation de Juda. Dieu convie les Babyloniens à venir comme des sacrificateurs pour tuer et découper les Israélites. Les oiseaux et les bêtes sauvages se répéteront de leurs cadavres. Ézéchiel, chapitre 39, versets 17 à 20. On retrouve le même langage dans l'Apocalypse à propos du jugement de Dieu. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Apocalypse 19, versets 17 et 18. Cette scène figure dans le même chapitre que le récit des noces de l'agneau, dans le chapitre 19, versets 6 à 9. Le Seigneur avait peut-être à l'esprit les paroles de Sophonie quand il raconta la parabole du festin de noces. Le roi a préparé la fête et invité ses convives, mais un homme est exclu de la fête car il ne porte pas l'habit de noces. En d'autres termes, il a sur lui des vêtements étrangers. Pour Ésaïe, la tenue correcte consiste à revêtir les vêtements du salut et le manteau de la délivrance, ce que tout enfant de Dieu porte. Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. C'est la plus belle robe dont le Père revêtit le Fils prodigue. Les vêtements étrangers de Sophonie 1:8 sont le symbole de toute notre justice qui est comme un vêtement souillé aux yeux d'un Dieu saint. Ils ne conviennent absolument pas pour paraître en sa présence glorieuse. Le Rédempteur a ordonné que tout enfant de Dieu soit débarrassé de ses vêtements sales en disant « Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Zacharie, chapitre 3, verset 4 et Apocalypse 19, verset 7 et 9. On a aussi la fin de la honte, qui est un autre thème. « En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. » Ce qui est dit ici ne peut s'appliquer qu'aux exilés revenus de Babylone, car il y avait encore parmi eux des hypocrites et des inconvertis. Pour Cale, qui est un auteur, l'annonce prophétique se réfère au temps de la perfection qui a commencé avec la venue du Christ et sera pleinement réalisée à son retour pour le jugement. Le Seigneur Jésus-Christ apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean chapitre 3, verset 5. En lui réside le salut complet, la nature et l'œuvre du Fils de Dieu incarné qui ont ôté le péché. La croix a détruit la culpabilité et la puissance du péché, car la justice est à la fois imputée et impartie. Par sa présence à demeure, le Saint-Esprit exerce son influence bénéfique sur l'enfant de Dieu en le convainquant de péché, de justice et de jugement, et en produisant en même temps un fruit qui honore Dieu. Sophonie précise la nature de ceux qui sont préservés dans le chapitre 3, verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. La Nouvelle Alliance présente un parallèle remarquable. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean chapitre 2, versets 28 et 29. Et la dernière petite chose dont on parle dans le livre, le reste de l'Éternel, dans le chapitre 3, versets 12 et 13, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Alors que la nation tombe sous le sévère jugement de Dieu, un petit nombre, les restes d'Israël, est gardé fidèle en vertu de la grâce puissante de Dieu. À chaque génération, l'Éternel se conserve un reste selon l'élection de la grâce. Romains 11, 5. Même aux jours les plus sombres du royaume du Nord, à l'époque d'Élie, alors que le prophète pensait être le seul fidèle, Dieu lui montra qu'il se trompait grandement, car l'Éternel s'était réservé 7000 fidèles en Israël. 1 Roi, chapitre 19, verset 18. La préservation d'un reste élu de Dieu constitue une vérité précieuse, propre à encourager le peuple des rachetés. Trois applications. Première, rendons grâce au Seigneur, que nous soyons revêtus de la robe de justice de Christ. Ce vêtement d'une valeur inestimable et d'une blancheur immaculée est le seul convenable pour vivre devant l'Éternel. Nous l'avons reçu gratuitement, par sa grâce et par la foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxième application. Méditons sur l'aspect terrifiant du jour de l'Éternel. Un jour, l'Éternel exercera son terrible jugement sur les pécheurs impénitents et les plongera vivants dans le lac de feu pour l'éternité. Ne nous lassons pas d'évangéliser et de donner de solennels avertissements. Troisième application, jugement et miséricorde, colère et grâce sont les thèmes dominants de ce livre. Implorons le Seigneur de nous en faire comprendre toute la richesse, toute la portée et toute la profondeur. Que le Seigneur nous donne la grâce de la crainte de sa personne pour sa plus grande gloire. Amen. Amen.